Annie Regon présente Du patrimoine et des hommes dans Carrefour des Arts.
Bonjour, bienvenue dans ce Carrefour des Arts consacré au patrimoine, aux monuments et aux hommes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Françoise Bercet, qui est inspecteure générale honoraire du patrimoine. Elle va évoquer plusieurs monuments de la belle province de la Normandie. Mais auparavant, nous allons faire connaissance. Madame Bercet, vous dites toujours qu'à l'origine, vous êtes archiviste paléographe.
Voilà, je suis sortie de l'école des chartes dans des temps très anciens, en 1959. Et j'ai été nommée d'abord directeur des services d'archives de la Haute-Loire, au Puy, en Velay, ville particulièrement riche en monuments divers, avant d'être chargée des collections de la direction de l'architecture rue de Valois au ministère de la Culture.
Que vous n'avez jamais vraiment quitté.
Que je n'ai pas vraiment quitté.
Pendant votre carrière, en tout cas.
Oui. Même si j'ai un petit peu évolué sur la manière de concevoir mon métier, et en particulier la conservation des archives ou la gestion d'une bibliothèque, en fait, je suis toujours restée attachée aux monuments historiques.
D'où votre présence parmi nous aujourd'hui.
Voilà, je vous remercie particulièrement d'ailleurs d'avoir pensé à moi.
Donc, après avoir longtemps conservé les archives, la bibliothèque, les plans et la photothèque,
je me suis intéressée de plus près au contenu des dossiers. Et en particulier, j'ai publié d'ailleurs avec l'aide de la sauvegarde de l'art français et les encouragements de Jean Hubert, qui était mon professeur d'archéologie à l'école des Chartes, les procès-verbaux de la Commission des monuments historiques, qui a été créée en 1837. Et j'ai publié ces procès-verbaux pour la première phase, parce que finalement, ce sont toujours les commencements qui sont les plus importants, entre 1838 et 1848. L'important est de savoir que, certes, c'est le service des monuments historiques a débuté par la création du poste d'inspecteur général en 1830. Le premier inspecteur général a été Ludovic Vitet, qui était un historien, écrivain, etc. Le deuxième inspecteur général est beaucoup plus connu, puisque c'est en 1834, Prosper Mérimée.
Avec lequel vous avez entretenu une longue liaison, enfin ouais, tout bien tout honneur, bien
c'est
sûr.
C'est une liaison effectivement très longue, et qui continue d'ailleurs, car je ne désespère pas de publier chez Champion les rapports manuscrits inédits de Prosper Mérimée. Alors Prosper Mérimée donc a été nommé inspecteur général en 1834 et il a tout de suite compris qu'il fallait créer une commission qui donne des avis sur les secours que l'administration des monuments historiques allait accorder pour empêcher la ruine et assurer la conservation des monuments jugés les plus importants.
Et qui étaient à cette époque en assez triste état.
Voilà, c'était en assez triste état parce qu'il y avait eu au XVIIIe siècle malgré tout un changement de goût qui fait que peu de travaux ont été faits dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle sur les monuments anciens et particulièrement les monuments gothiques. Et en outre, après est arrivée la Révolution, avec tout ce que l'on sait de contestation, de bris et de violence.
Et d'abandon. Surtout.
Et donc, en 1840, les monuments n'avaient pas été entretenus depuis au moins 80 ou 90 ans.
Voilà, ce qui est valable pratiquement pour tous les monuments que nous allons examiner lors de nos émissions.
Voilà, j'imagine, parce que ce sont les plus importants.
Absolument. Vous publiez ces PV qui sont très importants de la Commission des monuments historiques. Vous avez également participé à des expositions importantes sur Viollet-le-Duc.
Voilà, en 1980, sur l'hiver 80-81, a été organisée une exposition au Grand Palais sur Viollet-le-Duc. C'était, mettons, l'exposition la plus importante. Il y en avait déjà eu auparavant, bien entendu, après sa mort et après la guerre, mais la Deuxième Guerre mondiale. Mais celle-ci prenait en compte non seulement le restaurateur, mais le constructeur et aussi l'ornemaniste, tous les dessins pour les peintures murales, les vitraux par exemple.
Il y en a des milliers.
Il y en a énormément. Et bien entendu, son œuvre peut-être la plus importante, qui est le dictionnaire.
Dictionnaire. Duquel on se sert toujours. Alors donc, vous participez à cette exposition à Paris, une autre à Washington.
Une autre à Washington, en 1988 à peu près, toujours sur Viollet-le-Duc et avec Bruno Foucart. Mais entre-temps, j'avais organisé une exposition à l'hôtel Sully sur les dessins des architectes des monuments historiques. Alors à la fois les dessins du 19e siècle jusqu'à la création du concours de recrutement en 1893, puis précisément les dessins faits, remis lors du concours de recrutement. Car le recrutement des architectes en chef était basé sur deux type d'épreuve, la confortation, c'est-à-dire l'art de reprendre en sous-œuvre, d'étayer d'abord, de reprendre en sous-œuvre, la connaissance de la taille des pierres, la connaissance de l'ornementation, bien entendu, et aussi le dessin, parce que c'est par le dessin qu'un architecte véritablement analyse, comprend et décrit un monument. Je crois que d'ailleurs cette exposition a eu beaucoup de succès.
Oui, mais le catalogue est fort utile.
Voilà.
Et alors donc, dans un petit peu dans le même esprit, c'est vous qui publiez les cahiers du Centre de recherche des monuments historiques que voilà. De nombreux architectes connaissent et qui sont également extrêmement utiles et dont la publication est toujours en cours actuellement.
Absolument, et même je dirais que la publication de ces cahiers est beaucoup plus élaborée et non seulement savante, mais prestigieuse et esthétiquement plus satisfaisante qu'avant.
Oui. Oui.
En fait, c'est très important parce que ces cahiers émanent donc du Centre de recherche pour les monuments historiques, qui s'appelait d'abord Office de documentation, qui a été créé en 1934-35 et ouvert en 1937 lors de l'exposition universelle qui s'est tenue donc À Chaillot,
dont on va bientôt parler au cours d'un colloque qui va avoir lieu au mois de mars.
Voilà, absolument. Et c'est Paul Deschamps, chartiste comme moi d'ailleurs, qui, avec un certain nombre d'architectes en chef des monuments historiques, a eu l'idée de créer un office de documentation sur le second œuvre en architecture. Si la maçonnerie est évidemment du gros œuvre, le second œuvre, c'est tout ce qui couvre, clôt, tapisse un édifice, c'est-à-dire les charpentes, mais aussi les lambris, les carrelages, la serrurerie, enfin tous ces aspects qui sont fondamentaux parce que fragiles, donc disparaissants, et qui permettent souvent de compléter la datation d'un édifice. Et puis, lors de la reconstruction après la guerre de 1914, on avait constaté que la documentation était extrêmement pauvre et qu'on était très embarrassé pour refaire tout ce qui avait disparu du fait des bombardements.
Alors, d'où ces publications qui sont extrêmement précieuses. C'est grâce à ce travail que vous avez, on peut dire, une connaissance véritablement très fine et très profonde du patrimoine bâti, je dirais de l'ensemble de la France, puisque votre médiathèque et votre centre de recherche étaient consacrés à l'ensemble du territoire français, ce qui donne une vision évidemment générale qui est absolument, à mon avis, irremplaçable. Et c'est donc ce dont nous allons parler tout à l'heure à travers trois exemples. Nous allons marquer une courte pause et nous retrouver Madame Françoise Bercet, inspecteur général honoraire du patrimoine.
Un événement,
une association,
une œuvre,
une fondation.
Tout ce qui mérite votre attention est dans Point de Mire,
en direct ou en médiathèque,
sur Canal Académie.
Nous sommes au Carrefour des Arts et nous retrouvons Madame Françoise Bercet, inspecteur général honoraire du patrimoine, dans cette émission qui est consacrée aux monuments et aux hommes. Donc cette fois, nous allons parler de trois monuments qui se trouvent en Normandie et qui ont en commun d'avoir été restaurés par un personnage important, Yves-Marie Froidevaux, dont vous allez peut-être nous parler un petit peu avant de parler des édifices eux-mêmes.
Voilà. Alors Yves-Marie Froidevaux a été reçu architecte en chef des monuments historiques au concours de 1938. Mais il avait déjà une carrière d'architecte auparavant, dans la mesure où il avait fait partie de l'équipe qui, en 1937, avait construit avec Paul Tournon le pavillon pontifical à l'exposition donc de 1937. Et il y avait beaucoup de nouveautés dans cette construction, en béton bien entendu, un peu néoclassique, mais avec des vitraux très importants qui avaient été demandés à nombreux artistes, et notamment à la belle-sœur d'Yves-Marie Froidevaux, Madeleine Flandrin-Latron. Sa femme avait également participé. Et ces vitraux étaient destinés ensuite aux fenêtres hautes de Notre-Dame de Paris.
C'était peut-être des descendantes du peintre Hippolyte Flandrin.
Absolument. Et d'ailleurs, après la mort de Madame Froidevaux, le grand portrait de Flandrin a été légué au Louvre. Et les Froidevaux avaient d'ailleurs déjà donné de nombreuses œuvres à la réunion des musées nationaux.
Voilà, on peut rappeler que Hippolyte Flandrin est l'auteur du décor de l'abside de Saint-Germain-des-Prés.
Voilà. C'était un grand peintre,
un grand artiste.
Voilà, qui a travaillé aussi à Nîmes, qui avait un grand prestige au XIXe siècle. C'était un élève d'Ingres. Et c'était ces peintres graves.
Voilà. Et qui a connu évidemment une période de purgatoire assez longue. Mais finalement, maintenant, il est reconnu à sa juste valeur. Alors, revenons donc à Yves-Marie Froidevaux.
Donc, Yves-Marie Froidevaux appartenait à cette génération qui construit en béton. Il n'y a pas du tout une prévention de sa part à l'égard du béton, qui est le matériau noble, si on peut dire.
Et, et que l'on croyait absolument éternel à ce moment-là. Mais on en est un peu revenu.
Oui. Voilà. Et il a donc aussi un goût pour, non seulement pour le béton, mais aussi pour la construction et la sculpture en taille directe. Car il y a toute cette génération, après la guerre de 14, qui au fond adopte les idées de Ruskin et de Rodin, c'est-à-dire une véritable hostilité à l'égard de tout ce qui peut être pastiche, mais qui au contraire considère que toute œuvre doit être une création.
En elle-même.
En elle-même. Et donc, dans les monuments historiques et dans la restauration, il n'est pas question d'utiliser des moulages, comme on a cru longtemps que le moulage était la solution idéale, parce qu'elle permettait de respecter et l'iconographie et, mettons, l'inspiration.
La couleur aussi.
Voilà. Or, en réalité, au contraire, il y a une véritable réaction contre cette forme qu'on considère comme une négation de l'art, je dirais. Et Yves-Marie Froidevaux, donc, va militer sur tous ces chantiers pour une architecture, une sculpture vraie et créative.
Voilà, il ne veut pas... Il a horreur du faux.
Il y a une, ou la conception que l'on peut avoir du faux à ce moment-là.
Qui est une conception quand même...
On sait maintenant que le faux est de tous les temps.
Simplement, il n'a pas la même... C'est surtout un concept.
Voilà. Donc, il appartient à cette génération-là. Et il restaure d'abord des églises dans les Ardennes, à Rethel en particulier. Puis, il aura la Dordogne. Il va restaurer aussi le château de Hautefort.
Ah oui, qui avait brûlé.
Qui avait brûlé.
Horriblement.
Et voilà.
Mmh.
C'est quelqu'un qui dessine beaucoup, qui travaille avec beaucoup de scrupules, enfin, dans le détail. Et il va travailler pendant de très nombreuses années au Mont-Saint-Michel. Oui, d'ailleurs, il lance les grands travaux justement pour soutenir la façade occidentale du Mont-Saint-Michel en creusant en quelque sorte l'abbaye sous terre et en la dégageant. Et alors, il va être l'architecte de la reconstruction en Normandie après la guerre.
Voilà, alors c'est là où vraiment la Normandie nécessite un traitement vraiment particulier. Donc, je rappelle que je reçois aujourd'hui Madame Françoise Berset, inspecteur général honoraire du patrimoine, et qui va nous parler particulièrement de trois exemples de restauration en Normandie, donc pour des édifices qui avaient été vraiment horriblement bombardés et qui ont été traités de manière différente par Yves-Marie Froidevaux.
Alors, j'ai trois exemples normands. Je ne suis d'ailleurs pas originale dans ce choix, car il avait été fait par Jean Tarallon dans une publication de la documentation française sur les problèmes posés par la restauration après la guerre. Mais j'ai travaillé après de nouveau sur ces questions à propos d'un colloque à Cerisy-la-Salle sur l'architecture normande. Ces trois exemples sont l'abbaye, l'ancienne abbatiale de Lessay, l'église d'Avranches, Saint-Malo d'Avranches, et Notre-Dame à Saint-Lô, qui est une cathédrale. Ces trois monuments sont intéressants dans la mesure où la même réponse n'a pas été donnée au même problème. L'essai a complètement explosé parce que les Allemands, avant de partir, ont miné l'édifice Donc, il y a eu une véritable explosion. Saint-Lô et Avranches ont été bombardés. Vous savez que lorsqu'on voit les photographies qui ont été prises après les bombardements de 1944, alliés, en Normandie.
Oui, il faut préciser pour les jeunes générations qu'on parle d'événements que nous semblent proches. Oui. C'est vrai que le débarquement d'Arromanches, c'était très enthousiasmant, mais ça a eu quelques effets secondaires quand même assez pervers sur le patrimoine.
D'autant plus que ça avait été préparé par des bombardements antérieurs.
Oui, et donc vraiment des destructions.
Il n'y reste plus rien, il n'y a pas pierre sur pierre, et il y a quelques fragments de murs sont ceux des églises qui étaient plutôt mieux construites. Alors, c'est particulièrement important pour le service des monuments historiques, dans la mesure où le service des monuments historiques avait été créé pour conserver, pour sauver des monuments anciens, considérés comme des documents. Et on peut évidemment s'interroger sur la politique de reconstruction des ruines, car quel document constitue un édifice qui a été entièrement reconstruit? C'était d'ailleurs l'opinion de Ruskin, qui considérait qu'on ne devait absolument pas reconstruire.
Bon. Même pas restaurer.
Mais en même temps, lorsque une population est frappée au cœur, non seulement dans ses attachements, mais aussi dans ce qu'elle aime, dans son environnement, laisser en ruine, c'est couper tout espoir. C'est-à-dire que la restauration, elle va au-delà du monument lui-même. Elle restaure en quelque sorte une apparence, une présence aussi dans une ville.
Oui, ça fait partie tellement du paysage.
Donc, une ville qui n'est pas reconstruite, d'ailleurs on le sait bien, puisque à Varsovie, finalement, la recherche de l'identité polonaise a été dans la reconstruction des places et de l'ancienne ville de Varsovie. Et bien, de la même manière, la reconstruction de la Normandie, c'était pas seulement pour donner évidemment des toits aux gens qui les avaient perdus, mais c'était aussi pour redonner une apparence à ces villes qui étaient complètement ces villes martyrs. Et la reconstruction de l'essai n'a pas été décidée tout de suite, car la commission des monuments historiques, bien entendu, regroupait des personnalités qui ne partageaient pas toutes le même avis, beaucoup hésitaient, mais parmi les arguments qui ont été avancés, ce qui est assez étonnant, c'est que l'essai n'avait pas brûlé, par conséquent les pierres n'avaient pas été desquamées comme le fait l'incendie. Le matériau était là.
Toujours.
Le matériau était là, il fallait les remonter. D'autre part, en étudiant l'histoire de l'essai, qui était une abbatiale, n'est-ce pas, qui avait été complétée par les moristes au XVIIIe siècle par un clocher, qui n'est pas de la même époque. C'était une abbatiale du XIe siècle, donc parmi les plus anciennes de la Normandie, et qui avait été très abîmée au XIVe siècle et qui a été reconstruite à l'identique au XVe siècle.
C'est de l'art roman du XVe siècle.
Voilà, et ça c'est très intéressant parce que je crois que vous partagez cet avis, je crois que les églises que l'on dit être du XIIe siècle ou du XIIIe siècle ont été bien entendu entretenues et considérablement modifiées au cours des siècles suivants parce que un édifice ne résiste pas au temps. D'une part, et surtout que le goût se modifie et que chaque génération apporte souvent sa pierre ou en tout cas des dispositions différentes à l'intérieur d'un édifice ancien. Et donc, à l'essai, c'était une église du XIe siècle, certes, mais qui avait été reprise et donc qui avait une grande unité. Et cet aspect de l'unité, c'est quelque chose qui touche souvent beaucoup l'opinion. Et donc, il a été décidé de la remonter, mais, et ça, évidemment, c'est intéressant aussi pour le goût, Yves-Marie Froidevaux, qui a fait le projet, n'a même pas envisagé de refaire le dôme et la flèche du XVIIIe siècle, parce que, pour lui et pour sa génération, le XVIIIe siècle n'était pas véritablement un siècle qui avait construit l'architecture religieuse.
Oui, voilà. Surtout.
Et donc, ça n'était pas une bonne référence. Donc, il a refait un clocher avec un toit en bâtière, non plutôt d'ailleurs un toit à quatre pans, extrêmement plus modeste.
Voilà. Enfin, il était quand même un peu pour l'unité de style lui aussi.
Tout à fait, tout à fait.
Lignée de Viollet-le-Duc.
Oui, peut-être un peu moins quand même, mais on en était encore à l'unité de style, et je dois dire que, par exemple, enfin ça on va l'aborder peut-être après pour un autre cas, mais même des personnalités comme André Chastel faisaient entrer ce critère de l'unité de style ou du style moins important parmi les éléments qui pouvaient décider de la reconstruction.
Oui. Car il y a toujours un parti à prendre, donc effectivement, il y a toujours des arguments.
Il y a des arguments
trouver.
Et il y a le dit et le non-dit aussi.
Voilà.
Parce qu'il y a des choses qu'on peut dire et il y a au fond ce que l'on ressent et l'émotion esthétique qui est partagée par telle ou telle personne qui ne dira peut-être pas, c'est-à-dire qu'on ne dira pas volontiers, surtout aujourd'hui d'ailleurs, ceci vaut la peine parce que c'est beau. Oui. Parce que le beau est une notion de plus en plus contestée, non pas sur le fond, mais plutôt dans son expression, comme ça, un peu naïve. Mais ça correspond tout de même bel et bien au goût d'une génération, même
si c'est pas dit. Absolument. Alors, donc, nous avons envisagé l'abbaye de l'Essai.
Voilà.
Je rappelle que je reçois Madame Berset, qui est inspecteur général honoraire du patrimoine, et qui nous parle des restaurations qui ont été conduites par Yves-Marie Froidevaux. Alors, maintenant, nous allons, je pense, à Avranches.
Voilà.
Et on a là un autre cas.
Avranches, c'est tout à fait différent, c'est-à-dire que c'était une église qui était justement, en quelque sorte, composite. Enfin, c'est ce qu'on aurait dit au XIXe siècle. Dans la mesure où il y avait un chœur de la fin du Moyen-Âge, plutôt flamboyant, et une nef partie 14e, mais terminée certainement au début du 17e siècle.
Oh, toute l'histoire de l'architecture était présente. Là.
Voilà, voilà, voilà. Et puis, une flèche qui était assez modeste, enfin, et assez traditionnelle, je dirais, et qui était probablement, elle aussi, du 17e siècle. Alors, lors du bombardement, il restait pas mal d'éléments du chœur, précisément, de l'abside, disons, et de la travée droite de chœur. En revanche, la nef avait été extrêmement mutilée et le clocher également. Alors, la première idée du premier architecte chargé de la reconstruction était que on pourrait reconstruire l'ensemble. Mais reconstruire une nef 14e, 17e, ce n'est pas facile. D'abord parce qu'effectivement, il aurait fallu un peu choisir entre les époques. On avait des photographies, mais enfin, on n'avait pas fait de sondage dans les murs, donc on ne savait pas exactement quelle était la composition des éléments. On n'avait probablement pas une documentation suffisamment précise.
Donc, mission impossible.
Donc, mission jugée finalement impossible, malgré les protestations, c'est assez intéressant, lors de la discussion en commission supérieure, un inspecteur général qui avait travaillé à la reconstruction après la Première Guerre mondiale protestait à l'idée qu'on ne refasse pas à l'identique en disant que on avait toujours regretté de ne pas avoir reconstruit à l'identique après la guerre de 14 et que ce que l'on avait pu finalement reconstruire selon le goût du moment n'avait pas été approuvé par les générations suivantes.
Donc, quel est le parti choisi?
Alors, le parti choisi par Yves-Marie Froidevaux, c'est de faire une nef moderne en béton, de refaire la flèche du clocher en béton. Il apparaissait important de la refaire parce que cette flèche jouait un rôle important dans le panorama de la ville. C'est-à-dire que lorsqu'on s'éloigne, on aperçoit le clocher d'Avranches. Donc, il fallait refaire un clocher.
Le clocher symbolise toujours la ville.
Voilà.
Le village encore plus, d'ailleurs.
Le village encore plus. Mais on les voit plus ou moins. Et voilà. Il y en a plus ou moins dans une ville. Mais là, malheureusement, les bombardements d'Avranches étaient tels qu'il fallait refaire ce clocher. Donc, on a juxtaposé un chœur flamboyant à une nef et à ce clocher en béton, avec des vitraux qui sont plutôt des claustras, avec un verre assez épais. Voilà. Et alors, le résultat, c'est assez intéressant parce que ce choix a été approuvé notamment par les archéologues de la Commission des Monuments Historiques. Jean Hubert, la marquise de Maillé, Jean-Valéry Radeau, toute personne tout à fait dans la ligne pure et dure archéologique, ont été d'avis qu'il fallait voter pour le parti proposé par Yves-Marie Froidevaux parce que ce n'était pas un parti menteur. Et ça, c'est vraiment important. Mais je pense quand même que si ça avait été une église romane, eh bien, on n'aurait pas hésité à refaire une nef romane.
Voilà. Alors, et maintenant, à Saint-Lô, alors, que s'est-il passé?
Alors, à Saint-Lô, la cathédrale avait perdu toutes ses voûtes qui se sont effondrées. Et il y avait deux clochers qui ressemblent un petit peu à ceux de Quimper, pas ceux de Chartres, mais disons, oui. ce sont des grands clochers.
Tours carrées et clochers pointus.
Voilà, clochers très pointus. Flèches. Donc une allure, une élévation très gothique. Très gothique.
Voilà.
Or, le clocher nord était complètement foudroyé. Et du clocher sud, il ne restait que la partie basse, la tour à proprement parler. Mais les deux clochers avaient disparu. Et alors, Yves-Marie Froidevaux a proposé de clore l'édifice au niveau de la première travée centrale, de restaurer en quelque sorte le clocher nord, mais simplement en limitant le clocher à la rase conservée. C'est-à-dire qu'on remplace les pierres dans la partie basse, mais on met un petit toit tout à fait banal sur ce qu'il restait de la tour, c'est-à-dire très peu de choses. Et on fait à peu près la même chose sur le clocher sud, si ce n'est qu'il en restait davantage.
Voilà, donc...
Et tout le projet réside en fait dans le travail de ce mur de clôture, ce mur en schiste avec des lits de pierre calcaire, travaillé véritablement, tout le schiste est travaillé en mur de parement à la main. Et là, on retrouve, comment dire, cette alliance.
Pour le savoir-faire
traditionnel. Pour un mur qui, malgré tout, dont la structure est en béton, c'est un parement. Mais c'est extrêmement soigné et ça témoigne aussi tout à fait du goût de cette génération des années 30, car il y a de très beaux linteaux presque en marbre, surmontés des phrases du Magnificat.
Puisque l'église est dédiée à la Vierge.
Voilà, donc, dédiée à la Vierge. Et là, on retrouve un petit peu ce goût du ballet de Tokyo ou du ballet de Chaillot, avec ses grands murs, avec les inscriptions.
Voilà. Très bien.
Et voilà.
Très bien. Mais je vous remercie beaucoup. Madame Percé, de nous avoir aussi bien expliqué l'art de restaurer de Yves-Marie Froidevaux. J'espère que cela incitera les auditeurs peut-être à aller visiter ces édifices qui sont des édifices importants et très visibles. Je vous remercie aussi pour donc toutes les indications bibliographiques que vous nous avez données, les cahiers du centre de recherche, les catalogues d'exposition de Viollet-le-Duc, les procès-verbaux de la Commission des monuments historiques, la correspondance de Mérimée, tout ça c'est très très passionnant et naturellement ça doit aussi inciter à la lecture.
Je vous remercie de m'avoir invité et d'avoir pu parler d'Yves-Marie Froidevaux.
Voilà, nous retrouverons une prochaine fois un autre Carrefour des Arts. Merci.